Bonjour à tous, je suis Sophia Habita. Vous écoutez We Can Be Her, un podcast pour sensibiliser à la mixité dans le numérique, réalisé au nom de l'association Femmes du Digital West. À ce qu'il paraît, aujourd'hui une femme peut devenir ce qu'elle veut, et pourtant, nous nous posons encore trop souvent la question de notre légitimité dans le monde du numérique. Une fois par mois, je vous présenterai un portrait de femme ou d'homme qui, j'espère, vous inspirera. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter Chloé Bidet, fondatrice d'Oseos, concept qui permet l'accès de la réalité virtuelle à tous. Chloé nous partage ses réflexions personnelles sur ce choix de vie et son choix d'entrepreneuriat. Elle nous livre également son expérience et son opinion sur la question de la mixité. Cet épisode est un peu particulier car nous avons enregistré dehors, sur un parapet, en bas d'un immeuble. Chloé a eu la gentillesse et l'audace, on va dire, d'accepter ce challenge et d'accepter cette invitation. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais et qu'est-ce que Oseos ?
Merci déjà pour ton invitation. Je suis ravie de participer à ce podcast. En quelques mots, voilà, je suis Chloé, la fondatrice en fait d'Oseos, qui est une entreprise sociale et solidaire qui propose des animations en réalité virtuelle accessibles à tous. Donc concrètement, on utilise la réalité virtuelle pour créer du lien social et apporter de l'épanouissement personnel, notamment aux personnes en situation de handicap qui vivent en établissement ou aussi auprès des personnes détenues, par exemple en prison. Et concrètement, l'idée, c'est de vivre à plusieurs une expérience en réalité virtuelle pour partager nos émotions. Et au-delà du partage, c'est aussi prendre confiance en soi, ouvrir le champ des possibles grâce à ces expériences qui, entre guillemets, nous apportent de l'évasion, des émotions pour en reconditionner, je dirais, notre schéma actuel et voir les choses en grand. Voilà en quelques mots. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions.
Moi j'avais une question sur comment est-ce que tu es venue à créer un dispositif de réalité virtuelle, car c'est clairement une innovation. Toi qui auparavant travaillais 8 ans dans la banque,
ouais.
Donc comment est-ce que tu es venue à faire ce changement-là,
changement radical de vie, parce qu'à un moment donné, voilà, dans ma vie, j'ai eu envie de tout changer sur le plan personnel et professionnel. Alors concrètement, une vraie démarche de développement personnel, je pense que c'est avant tout ça, la création d'entreprise. De toute façon, ça, c'est ce que ça amène. Et en gros, le basculement s'est fait pas à pas, en cherchant une idée qui répondrait à un besoin que j'ai identifié, notamment en lien avec le handicap, puisque mon frère est tétraplégique depuis une quinzaine d'années. Et donc c'était en réfléchissant à construire vraiment quelque chose qui n'existe pas. La réalité virtuelle, c'est quelqu'un qui m'en a parlé, et à force d'y réfléchir, j'ai essayé de trouver un usage qui pouvait répondre aux besoins que j'ai identifiés, c'est-à-dire l'isolement. Et là, en l'occurrence, la réalité virtuelle, elle est faite pour rentrer en communication avec des gens qui sont chez eux ou en établissement et qui vivent en fait dans l'isolement et qui sont peu en contact avec les autres ou dans des situations de divertissement, tout simplement. Donc l'idée, voilà, c'était d'allier ça avec le besoin que j'ai pu identifier. Donc clairement, la réalité virtuelle, c'est d'abord parce que quelqu'un m'en a parlé et que autour de ça, je me suis dit il faut creuser et trouver un moyen de d'apporter ce peps dans le quotidien, des expériences sensationnelles, exceptionnelles, et donner envie en fait de dépasser le virtuel. C'est-à-dire que pour moi, c'est un vrai support, un médiateur en fait. C'est vraiment comme ça que je le vois. Et voilà, pour répondre à la question.
Pourquoi est-ce que tu as... Alors déjà, qui, quelqu'un m'en a parlé, mais qui est cette personne-là? Moi je sais, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais nos éditeurs je pense, serait curieux de savoir.
Ok, donc en fait, concrètement, la première personne qui m'en a parlé, c'est Florian, quelqu'un avec qui j'ai fait mes études, qui vit actuellement en Californie. Donc ça c'est vraiment la première personne qui m'en a parlé. De là, je me suis dit, bon, c'est un peu, ça fait un peu américain, etc. C'est un peu loin de moi et mon projet social. Et puis, en fait, parce que j'avais cette démarche de développement personnel, j'étais coachée. Donc j'allais à la rencontre de ma coach à peu près une fois par mois et je lui ai glissé voilà cette idée de réalité virtuelle et concrètement voilà elle m'a vraiment invitée à creuser le sujet et elle c'est voilà comment l'idée est née entre guillemets.
Et pourquoi l'entrepreneuriat? Pourquoi pas autre chose pour changer de vie?
Parce qu'en fait, ces 8 ans voilà, dans la banque, ça m'a apporté voilà, sur le plan professionnel, ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Mais vivre dans un environnement dans lequel en fait, je n'étais pas en adéquation sur, voilà, vis-à-vis de mes valeurs, en fait, au bout d'un moment, ça ne me convenait plus. Et puis, il s'avère que c'est aussi un milieu qui est dirigé par les hommes et que concrètement, à un moment donné, il y a eu des situations qui font qu'on se dit bon bah tout ça n'arrive pas pour rien, il faut que je parte et j'ai autre chose à faire. Et grâce à ma coach qui m'a donné en fait ce peps pour avoir confiance en moi et en mes capacités à entreprendre, c'est ce qui m'a permis vraiment de me lancer parce qu'en fait dans mon environnement familial absolument personne n'est chef d'entreprise, voilà, tout le monde au contraire a plutôt une carrière voilà de salarié toute sa vie, donc la sécurité, et en fait j'avais besoin aussi d'un soutien que je trouvais pas forcément dans mon cercle proche, et donc c'est là que ma coach m'a vraiment permis en fait de croire que c'était possible.
Donc t'as cru en toi, mais est-ce que ça t'a pas fait peur ce changement presque radical de lâcher un cocon, de lâcher une sécurité notamment financière?
Financièrement, j'avais des économies. C'est aussi ce qui m'a permis de me lancer dans cet entrepreneuriat, puisque le fait d'avoir ne serait-ce qu'un apport financier et puis d'avoir quelques réserves. Après, peur, je dirais que c'était presque viscéral. Il fallait que je change, en fait. Il fallait que je prenne... que je reconstruise toute ma vie, en fait. J'avais tout à refaire et finalement, ce qui m'aurait fait peur, c'était plutôt de rester dans le schéma dans lequel j'étais, qui en fait s'avérait être enfermant. Donc, envie de relever un challenge, quitte à ce que ça ne fonctionne pas. Je partais du principe où même si demain, même si on peut imaginer que ça s'avère compliqué sur le plan financier, j'aurais absolument tout gagné via l'expérience humaine, en tout cas. Voilà, c'est surtout très très enrichissant et c'est ça le réel gain.
Ce que j'ai compris de la discussion qu'on a eue juste avant pour préparer le podcast, l'humain était très fort en toi, en tout cas ce besoin d'aider les gens, d'aider les autres. J'ai une question. Tu disais que c'était viscéral, mais qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Je voulais rebondir là-dessus, mais je trouve ça tellement intéressant par rapport à ce que tu fais aujourd'hui et au développement personnel dont tu parlais.
Ouais, alors en fait, concrètement, quand j'étais petite, ma mère m'a permis de m'en souvenir voilà, il y a quelques temps. Je parlais voilà, d'être médecin du monde, d'aller aider les enfants dans les pays du tiers-monde notamment. Et en fait... quand ma mère m'a rappelé ça, je me suis dit, ok, bon, je viens de quitter mon job, je ne sais pas exactement dans quoi je me lance, mais je crois qu'il faut que je vive une expérience avant d'entreprendre quoi que ce soit, et que justement je me reconnecte à cette petite fille intérieure dont on parle beaucoup en développement personnel, forcément. Et là, oui, donc du coup, c'est via une expérience d'un mois au Togo dans un orphelinat où j'ai pu vivre, je dirais... une expérience qui m'a permis de me reconnecter à moi et d'apprendre à mieux me connaître, à sortir de ce contexte dans lequel j'évoluais depuis quelques années. Et en fait, je crois que ce qui m'anime vraiment, c'est d'aider les autres et d'aider ceux qui en ont le plus besoin. Et dans mon expérience de conseiller clientèle dans la banque, c'est réellement ce que je mettais en pratique au quotidien. Sauf que la banque, elle n'est pas faite pour ça. Elle n'a pas... clairement, ma direction n'était pas vraiment d'accord. Donc, l'idée, c'était de se dire, moi, ce que j'aime, c'est la relation client. J'adore vendre, j'adore être au contact des gens et découvrir ce dont ils ont vraiment besoin. Et je me suis dit, il faut que je vende un truc qui a du sens pour moi et puis que j'ai conçu, en fait, et qui va me faire vibrer, quoi. Voilà un peu le cheminement.
T'as lié tout ça dans Zeos au final ?
C'est ça, exactement. Et le handicap, parce que c'est ce que je vis depuis 15 ans aux côtés de mon frère, et que tout ce qui nous arrive a du sens, et que clairement cette expérience, elle m'a apporté plein de choses, et qu'aujourd'hui j'ai des messages en fait à passer autour de l'inclusion, autour de la différence, autour de l'acceptation de soi, du regard des autres, et j'ai mis tout ça dans Zeos.
Le thème du podcast, c'est la mixité dans le numérique. Est-ce que tu peux me parler de ton expérience en tant que femme dans la réalité virtuelle et aussi dans le monde de l'entrepreneuriat ? Est-ce qu'il était difficile en tant que femme d'avoir du soutien financier tout d'abord ?
Alors, sur le plan financier, ce qui a été avantageux pour moi, c'est d'obtenir une garantie bancaire qui s'appelle Égalité Femmes et qui est attribuée par le Fondes. Alors concrètement, ça m'a permis d'aller voir les banques avec cette garantie bancaire. Donc je dirais que clairement, c'est grâce à des dispositifs comme celui-là que j'ai pu, sur le plan financier, être soutenue. Sur le plan de l'accompagnement, j'ai... principalement rencontrer que des hommes, puisque en fait des mentors, il y en a très peu des femmes. Enfin, en tout cas, ça s'est pas présenté beaucoup sur mon chemin. Donc, je dirais que j'ai quand même reçu vraiment beaucoup d'accompagnement de la part des hommes, même si j'ai toujours ressenti que ils acceptaient de m'accompagner malgré que le projet soit un peu utopiste. Et notamment parce qu'il est social et que le modèle économique reste à travailler. Et puis après, des accompagnements, j'ai obtenu via un concours lancé par La Ruche, qui est un incubateur. C'est un accompagnement spécifique pour les femmes. Donc ça s'appelle Les Ambitieuses. Ça aussi, ça m'a vraiment permis... d'être accompagnée et puis d'avoir plus de réseau aussi notamment sur la tech for good. Et puis aujourd'hui, dernièrement, j'ai été sélectionnée par Orange aussi par un parcours femme entrepreneur. Donc le constat que je fais, c'est que les initiatives pour les femmes, heureusement qu'elles sont là, puisque c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être mis en avant, voilà, par La Ruche ou Orange par exemple. Mais c'est vrai que il y a énormément d'hommes qui sont aussi prêts en fait à nous accompagner, nous les femmes. Et sur le plan développement technique, là clairement je travaille qu'avec des hommes parce que moi-même je développe pas, parce que je fais pas les vidéos 360 degrés et que tous les prestataires que j'ai pu rencontrer sont des hommes exclusivement en fait. Hein. Là j'ai beau chercher très peu de femmes.
Là, je lancerai plus un appel à toutes les femmes qui nous écoutent. Je suis sûre qu'il y a des développeuses, des nanas qui travaillent dans la réalité virtuelle qui nous écoutent. Donc, n'hésitez pas à contacter Chloé Bidet. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et tu disais qu'il y avait des hommes dans la réalité virtuelle. Donc, tu avais fait appel à une agence.
Oui.
Et là, c'était encore que des mecs.
Ouais. Des développeurs spécifiques réalité virtuelle, et là c'est que des mecs. Ouais. Et ouais, j'aurais préféré travailler avec des femmes honnêtement, parce qu'en fait ce qui me manque, ce qui m'a manqué, c'est le côté humain en fait, et je pense qu'il faut vraiment allier ce côté sensible que les femmes ont et la mixité, c'est-à-dire que si dans une équipe il y a des hommes et des femmes, ça s'équilibre, mais des hommes qui travaillent qu'avec des hommes, il manque, je trouve, ce côté féminin qui
te manque la moitié.
Ouais, ouais. Après, je dis pas qu'ils sont déséquilibrés. Je dis juste
non,
que
je veux
c'est
dire
vrai
que
qu'il y a.
Le monde est fait de deux parties. Ouais. Et que surtout dans les vidéos, je pense que ça s'adresse aussi à des femmes.
Exactement.
Il manque ce truc-là. Enfin, comment créer quelque chose pour des femmes si on n'est pas nous-mêmes. Si on connaît pas en fait.
Enfin, ouais, puis voilà, sur le côté, je pense, il y a cette sensibilité, l'empathie, etc., que je retrouve des fois assez difficilement avec mes prestataires en fait. J'aimerais
les hommes, vous n'êtes pas assez empathique.
J'aimerais des fois qu'il y ait plus de sentiments en fait dans la relation, quoi. Voilà. À tort peut-être.
Tu disais que ton projet. Le retour que t'en as eu, c'était un projet utopiste.
Oui.
Et le message que je voudrais faire passer ici, c'est que même si c'est utopiste, je te laisse continuer.
Ouais, c'est vraiment hyper important d'y croire. Enfin, je pense que, bien sûr, ça viendra toujours interpeller les autres. Et je crois que ce qu'ils nous renverront, c'est leur propre peur. Donc, moi, je pense que... On doit impérativement croire plus que tout le monde en notre projet, en nos capacités. Et bien sûr, les réflexions sont faites pour nous faire avancer, donc se questionner, peaufiner le projet. Et moi, j'étais la première à dire, ok, le modèle économique aujourd'hui, il est à retravailler. Mais ça va c'est clairement le projet, c'est-à-dire que ce modèle économique, il va évoluer et je vais trouver des solutions. Et si vous avez envie de les trouver avec moi, allons-y. Mais c'est vrai que c'est pas parce que en l'état le modèle n'est pas viable qu'il le sera pas. Et au contraire, en fait, c'est parce que je crois intimement que le projet a du sens que le modèle économique il viendra en fait.
Après,
voilà.
Oui. Mais sinon, t'aurais tout lâché, en fait.
Sinon, j'aurais rien fait, ouais. Clairement, sinon, j'aurais même pas commencé. Ou clairement, j'aurais monté une association et puis je l'aurais fait bénévolement sur mon week-end, quoi. Et clairement, c'était pas ce que j'avais envie. J'avais envie de créer un vrai projet professionnel et d'emmener une équipe, en fait, avec moi, quoi. J'ai pas envie de travailler seule. J'ai envie de collaborer. Pour moi, c'est ce qui m'anime. C'est mettre en relation toutes ces personnes et qu'ensemble, on crée de belles choses, quoi. Voilà.
Je vais revenir sur le mot équipe. Tu en parlais tout à l'heure. C'était les hommes, tu les trouves du côté de la tech, de la vidéo, de la réalité virtuelle. Et les femmes, elles sont plutôt côté business, social, intervenante.
Voilà, sur le plan. En fait, clairement, du coup, la personne qui m'a rejoint sur le projet, qui fait du développement commercial, c'est une femme. Et elle connaît voilà, parfaitement le milieu du handicap parce qu'elle y a travaillé. Dans le monde du handicap, beaucoup de femmes, énormément, la majorité clairement. Et puis après, sur le plan intervention, puisqu'on va dans les établissements médico-sociaux pour animer nos propres animations, justement en réalité virtuelle, là j'ai fait le choix de travailler avec des art-thérapeutes, et clairement c'est des femmes aussi, j'ai encore jamais rencontré d'hommes art-thérapeutes. Enfin, si, c'est vrai. Mais bon, voilà. Clairement, c'est sur le plan relationnel, là, vraiment, moi, je travaille avec beaucoup de femmes, finalement.
Est-ce que tu peux nous parler des futurs développements de Zeos ?
Oui. Donc, on est en pleine préparation de campagne de financement participatif. Donc, sur Ulule, mi-novembre, on lance... un projet de location de casques de réalité virtuelle à domicile, où clairement on va proposer à une personne de louer le casque sur une semaine pour un partage avec sa famille, ses amis. Et là, clairement, c'est regrouper les petits-enfants, les grands-parents, qu'on ait un handicap ou pas. L'idée, c'est qu'on ait tous accès à cette même expérience et que la réalité virtuelle nous permettent de nous rencontrer, de partager nos émotions et puis surtout de peut-être se projeter dans des projets futurs. Voilà, clairement, si papy et mamie peuvent avoir envie de faire un saut en parachute avec leurs petits-enfants grâce à la réalité virtuelle, bah, c'est un peu ça le projet. En tout cas, c'est de nous rassembler autour des expériences qui sont hors du quotidien. Et donc voilà, demain aux EOS à domicile. Ça, c'est vraiment le projet à venir.
Super.
Merci.
Et toute dernière question. Si tu avais un conseil, une baguette magique, qu'est-ce que tu dirais en fait, j'allais dire aux femmes qui nous écoutent, mais je pense que ce genre de conseil peut s'adapter et se donner à tout le monde.
En fait, je pense que le meilleur conseil que je donnerais, c'est investissez sur vous-même. Prenez le temps pour vous d'apprendre en fait qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous anime. Voilà, j'aurais presque envie de parler de mission de vie parce que je pense vraiment que le plus important, il est là et qu'après tout s'équilibre. Donc osez sortir de ce petit cocon de sécurité qu'on se construit au fur et à mesure et que la société aime bien aussi nous rappeler qu'il est bon de construire des choses dans la sécurité. Et en fait, je crois que ce qui nous rend vivants, c'est finalement d'en sortir et d'apprendre à se connaître toujours un peu plus.
Voilà. Merci beaucoup, Chloé.
Merci beaucoup à toi pour cette interview. C'était très sympa.
À très bientôt. Si vous souhaitez en savoir plus sur la réalité virtuelle et Chloé, retrouvez toutes les infos sur le site de Femmes Digital West. Je suis contente de vous annoncer que Chloé a récolté 200% des fonds sur Ulule et vous en remercie pour elle. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux.